avant de présenter un peu le travail qu'on peut faire sur l'île de Noirmoutier, la réserve de polder Sébastopol, je vais un peu expliquer en effet pourquoi la LPO s'intéresse et travaille depuis, alors de longue date en fait, sur le sujet de l'agriculture, mais c'est pas forcément le sujet sur lequel on est plus visible. En fait, l'agriculture aujourd'hui, c'est 60% du territoire en Pays de la Loire, et en France, sûrement, je pense que je ne me trompe pas trop, c'est donc le premier gestionnaire d'espaces naturels en France. Donc évidemment, c'est une activité qui a un impact assez important, d'une manière positive ou négative, sur les milieux naturels, leur conservation et les espaces qui y vivent. Donc depuis plus de 20 ans, en fait, on suit cette activité, que ce soit par la politique agricole commune, mais aussi des actions plus ponctuelles, comme des suivis naturalistes, qui avait pour objectif de faire évoluer en fait les pratiques agricoles en tant que telles, introduire, on va dire, la biodiversité dans les systèmes dits conventionnels. Et alors là, c'est encore des résultats en Pays de la Loire, mais il y a des corrélations en France. En fait, on remarque au bout de 20 ans que pour finir, ce travail, alors est-ce que c'est le résultat des politiques publiques ou est-ce que c'est notre travail qui n'est pas très bien fait, mais on remarque en fait que l'ensemble des espèces qui sont associées à ces espaces agricoles, mais tout à l'heure Alain Divot parlait des espèces insectivores, sont en diminution constante. Donc là, par exemple, j'ai 4 espèces, hein, on ne va pas trop s'étendre dessus, mais le chardonneret que, par exemple, tout le monde connaît, en Pays de la Loire, on a une diminution de 61% quand même des populations et 49% en France. Donc qui sûrement, enfin, plus ça va aller sûrement et plus ça va augmenter. Ben voilà, donc en fait, on se dit qu'on n'a pas réussi dans ce travail d'introduction de la biodiversité dans les espaces naturels. En 2014, aujourd'hui, du coup, on se dit, demain, dans les 10 prochaines années à venir, il y a un tiers de la population agricole qui va se renouveler. Que ce soit par le départ en retraite ou par l'arrêt d'activité plus simplement. Et donc on se dit, plutôt que faire changer en fait des paysans, enfin des agriculteurs qui, d'après nos résultats, sont pas vraiment enclins à changer, je caricature un petit peu, on se dit, il y a sûrement un enjeu sur le renouvellement de cette population agricole. Et j'en viens du coup à l'écopâturage, au sujet de ce matin, on se dit en fait que pour finir, l'écopâturage c'est peut-être une des solutions au renouvellement de cette population agricole, et donc une population agricole qui pourra, dès le départ, intégrer les enjeux de biodiversité dans leurs installations. Alors, pour schématiser ça, là, on est en train de construire aujourd'hui un réseau de fermes témoins en agroécologie, donc des paysans qui intègrent la gestion d'espaces naturels dans leur objectif de production, hein, donc pour qui la biodiversité en fait est un atout et pas forcément une contrainte comme on peut régulièrement entendre dans les journaux ou autres médias. Et donc ce réseau de paysans agroécologie a vocation à former des futurs porteurs de projets ou étudiants à la prise en compte de la biodiversité au sein des systèmes agricoles. Donc concernant l'écopâturage, en fait, à la LPO, on l'imagine et on l'utilise de deux manières différentes. C'est que cette prestation en écopâturage est un plus pour ces exploitations agricoles en agroécologie, et donc qui vont permettre soit de communiquer sur le type de production, comme ça a été expliqué tout à l'heure, créer du lien entre les citoyens, les communes, et l'agriculteur, remettre en fait l'activité agricole au centre des préoccupations urbaines, périurbaines ou rurales. Hein. On a vu tout à l'heure les différents exemples qu'on peut, à mon avis, souvent rencontrer au salon de l'agriculture. Voilà, et évidemment, le fait de travailler pour les communes avec ces exploitations en agroécologie assure à la commune une réelle prise en compte des enjeux de biodiversité si elle ou il souhaite mettre en place des programmes spécifiques. Et le deuxième point, c'est utiliser l'écopâturage, et je vais détailler après avec l'espace test, comme un réel tremplin à l'installation. Donc on a construit un espace test en élevage, comme ça peut être le cas ici dans ce lycée avec le maraîchage. utilise voilà, la prestation en éco-pâturage en espace test parce que ça permet tout simplement de commencer une activité en prenant un risque limité avec peu d'animaux et un accompagnement qui est réalisé par ces mêmes paysans issus de ce réseau de paysans d'agroécologie. Alors, du coup, pour répondre à la question un petit peu, est-ce que l'éco-pâturage est un accélérateur de biodiversité, ben, j'ai envie de dire en fait que, en tant que tel, l'activité d'éco-pâturage, moi, à mon sens, n'est pas forcément un accélérateur de biodiversité. À la même image que pour l'agriculture, c'est bien si la biodiversité est un objectif en tant que tel, et un objectif clair, défini, que l'éco-pâturage peut être une solution pour atteindre ces résultats environnementaux. Mais concrètement, sur un espace vert d'une commune, le mouton peut remplacer la tondeuse, que ce soit la pression de pâturage, etc. Et donc je vais détailler un petit peu ça avec là des travaux de l'université de Rennes qui présentent l'impact sur la diversité floristique du pâturage. Et c'est principalement l'atout biodiversité qu'on va donner à l'éco-pâturage. Donc vous avez ici deux prairies, hein, une prairie en marais, enfin c'est deux prairies en marais breton d'ailleurs, un marais en Nord-Vendée, et la mosaïque en haut qui paraît un petit peu compliquée, montre simplement que l'effet du pâturage, avec la pétence, mais aussi le fait d'avoir des déjections à certains endroits, des refus à d'autres endroits, va créer une importante hétérogénéité floristique. Et évidemment, vous imaginez bien que vous avez l'ensemble des cortèges d'insectes et d'oiseaux qui peuvent être associés à ces patchs de végétation. On appelle ça des patchs, là, les couleurs vertes, oranges, bleues, roses, etc. Donc on va avoir par exemple un vanneau huppé qui niche au sol, qui va peut-être plutôt lui occuper l'espace bleu, alors qu'une bergeronnette printanière, un petit passereau jaune, va plutôt occuper les espaces verts. Donc ça, c'est évidemment dans l'idéal, mais vous imaginez bien, pour un peu expliquer mon propos, que ça va cette hétérogénéité floristique va évidemment évoluer en fonction du type d'espèce qui va être choisie. C'est-à-dire que, comme vous le savez aussi bien que moi, une vache ne va pas manger de la même manière qu'un cheval ou alors qu'une chèvre. Et donc évidemment, ça va influencer la végétation d'une manière différente. Par exemple, sur les coteaux du Pont Barret, donc une réserve naturelle en Maine-et-Loire, l'intérêt est bien de maintenir des pelouses calcicoles rases, et donc on va avoir une pression de pâturage importante avec des moutons. Alors que une autre réserve naturelle ou une autre prairie en marais breton, l'intérêt va simplement être de maintenir une prairie assez classique, hein, et donc on va plutôt utiliser des bovins associés à des équins. De la même manière, la gestion de la parcelle va aussi influencer cette prise en compte ou pas de la biodiversité. Je vais prendre l'exemple, encore une fois, de la diversité floristique, où vous voyez que différentes dates de fauche vont évidemment, de la même manière, influencer la diversité floristique. Et de la même manière, encore une fois, la pression de pâturage. Alors ici, il y a une photo des landes de Locarne, qui sont pâturées par des landes de Bretagne, si je ne me trompe pas. L'idée est bien de développer différents faciès de végétation en maintenant une certaine forme d'embroussaillement. Alors que ici, c'est des parcelles qui sont à Noirmoutier, dans les marais salants, où on veut développer plutôt des espèces en rosette, donc qui vont courir au sol. Et bien donc évidemment, la pression de pâturage n'est pas du tout la même. Tout ça pour illustrer le fait, en fait, que la prise en compte de la biodiversité au sein d'un espace résulte bien de la définition d'un enjeu, d'une gestion propre à cet espace-là. Il ne suffit pas de dire « je fais du pâturage » pour dire qu'on protège la biodiversité.
Tu peux accélérer dans ton conseil.
Oui, j'accélère. Il me reste deux diapos. Et donc, pour ça, je vais illustrer mon propos avec le projet qui est développé sur la réserve naturelle du Pôle vers Sébastopol, là où se trouve le troupeau école, justement. ou le polder Sébastopol, il y a un paysan qui déjà gère cet espace avec des vaches à la Chine, donc un paysan installé, professionnel, et donc cet espace a un des très très forts enjeux de biodiversité à l'échelle internationale, où c'est le premier site de reproduction de la Sarm Cogec en France. Alors, la problématique ici, c'est que sur une prairie de fauche, donc qui n'est pas pâturée par les maraîchines, on a une problématique de développement des ronciers qui vont courir au sol. Alors, les éco-pâtureurs le savent bien, la fermeture du milieu par le roncier va limiter forcément la diversité floristique d'une part et la qualité floristique du milieu, hein, qui est un habitat un petit peu particulier. À côté de ça, on pourrait se dire, on désingue tous les ronciers de la réserve. On ne peut pas le faire parce que, c'est ce qu'on voit en rouge, un roncier ne voit pas très bien, mais les ronciers sont aussi un habitat pour le gorge bleu et la réserve naturelle est aussi un des premiers sites de passage et de reproduction du gorge bleu. Donc du coup, on a un petit peu ce souci pour trouver la gestion la plus adaptée. Et on a aussi une fauche tardive au 15 juin. Par l'agriculteur, donc ça nécessite, malgré tout, on pourrait mettre aussi les bestioles toute l'année dans la parcelle et attaquer les ronces, mais l'agriculteur présent, il veut quand même avoir du volume fourrager. Voilà la problématique. Alors, comment on intervient sur ce milieu? Là, vous avez en haut les ronces courantes, hein, c'est pas des gros ronciers, c'est bien des ronces qui courent au sol. L'idée, c'est d'intervenir avec une pression de pâturage très forte pour bien attaquer la ronce en fait, et de passer trois fois par an, de manière à ce que ça n'impacte pas le volume fourrager sur la prairie maigre de fauche. Donc on intervient en sortie d'hiver, hein, donc prime herbage, lorsque la ronce relance sa petite dynamique pendant 2 mois, on sort, ce qui permet aux plantes de lancer leur cycle et avoir un certain volume fourrager au mois de juin. Et on intervient en fait en regain précoce juste après la fauche et en regain un petit peu plus tardif au mois de septembre lorsqu'il y a eu une nouvelle repousse. Et on espère bien que d'ici 3 ans, on atteigne des résultats intéressants. On a aussi évidemment un problème, on doit aussi préserver aussi les insectes. Donc on se doit de faire des parcs tournants, ce qui permet en fait, et la flèche le montre ici un petit peu, d'avoir des zones de refuge pour les insectes, et de laisser à la plante le temps de réaliser son cycle en entier. Voilà, donc comment en fait sur un site en particulier, lorsqu'on a des enjeux de biodiversité prépondérants, on se doit effectivement d'appliquer une gestion assez fine. Merci. Merci.